En premier lieu, je suis ravie d'être ici avec vous. Je suis ravie de partager sur ce sujet avec vous, parce que c'est un peu un sujet confidentiel, la littérature de l'Europe de l'Est. On n'est pas nombreux à s'y intéresser, on n'est pas nombreux à être passionnés par le sujet, donc avoir des personnes qui se sont intéressées au sujet et qui désirent écouter parler de ça, pour moi, c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, j'ai lu... Ce petit guide bibliographique, j'ai été assez impressionnée du travail que vous avez fait et je pense que vous avez bien saisi l'esprit de la littérature de l'Europe de l'Est. Donc je vais le survoler avec vous ce soir, mais c'est déjà quelque chose que vous avez compris de ce qui se joue là-bas. Comme le disait Béatrice, j'ai un parcours un peu particulier, je ne suis pas une spécialiste de la littérature. Donc, quand j'ai proposé d'intervenir ce soir, je me suis dit après, mais dans quoi tu t'es embarquée ? Et en même temps, je me suis dit, bah, c'est une belle mise en abîme de l'Europe de l'Est, parce que quand on commence à s'intéresser à cette zone-là, on se fait embarquer. Je suis psychologue interculturelle, c'est-à-dire que je travaille sur le rapport entre plusieurs cultures. Ma spécialité, c'est l'Europe de l'Est. Donc, j'ai vécu là-bas, j'ai vécu en ex-Yougoslavie pendant à peu près 3 ans. Je dis ex-Yougoslavie parce que je vivais en Serbie, mais je me déplaçais beaucoup dans les pays alentours, Croatie, Bosnie, Slovénie, et entre autres sur la question yougoslave. Donc moi, j'ai vraiment eu le sentiment de vivre en ex-Yougoslavie, pas en Serbie. Je parle serbo-croate, du coup, je parle un peu russe également. Du coup, je lis dans ces langues-là, donc j'ai affiné quelque chose par rapport à ça. J'ai été professeure de théâtre avant d'être psychologue. Et je m'étais intéressée également aux auteurs de l'Est durant cette époque-là. Donc j'avais lu énormément et mis en scène des auteurs de l'Est. Et voilà, je m'étais intéressée à tout ce qui se passait dans ces courants littéraires et dans cette narrativité un peu particulière. Et du coup, là, je travaille en tant que psychologue beaucoup avec des interprètes qui viennent de l'Europe de l'Est en France. Donc c'est plutôt par rapport à ce parcours-là un peu hybride qui m'a amené à m'intéresser à cette zone que je vais traverser la littérature avec vous ce soir. J'aimerais au fait axer un peu cette intervention sur ce que moi j'appelle les narrativités culturelles. La narrativité, c'est comment on se raconte, comment on raconte notre vie, notre histoire, notre identité. Et la culture, c'est cette espèce d'essence un peu invisible qu'on essaye de garder et de transmettre malgré nous, sans même toujours comprendre de quoi il s'agit. Donc on a tous des narrativités culturelles. En France, on a des narrativités culturelles aussi. Mais en Europe de l'Est, la narrativité culturelle, elle est particulière. Elle est différente de ce qui se joue dans d'autres pays d'Europe, sur cette zone géographique. Et donc l'idée, c'est d'explorer ça ensemble. Et pour lancer cette intervention, je voudrais vous parler d'une petite légende qui existe sur le Danube par rapport à un vent qui s'appelle le Plomaya. Il l'appelle le Plomaya en slave. Et c'est un vent qui souffle tout le long du Danube à contre-courant. Un vent très froid, très sec, qui pince, qui attrape. Et il y a une légende qui dit que quand le Plomaya se lève en hiver, il faut s'en protéger. Il faut fermer les fenêtres, il faut fermer les volets, il faut mettre une écharpe, un bonnet, il faut aller dans des bars, il faut aller sous le sol. Parce que si le Plomaya vous attrape, il vous emmène à la guerre. Et je pense que cette légende retranscrit beaucoup de cet état d'esprit qu'il y a en Europe de l'Est, de quelque chose qui, dans le territoire, va venir vous attraper et vous embarquer, bien malgré vous. Parce qu'on ne peut pas vraiment fuir le vent. Du coup, avant de se concentrer sur l'Europe de l'Est... je me suis posé la question pour partager avec vous ce soir de est-ce qu'il y a une littérature européenne ? Ici, on est dans une bibliothèque, une médiathèque, donc je pense que vous savez qu'il y a plein de manières différentes de classifier la littérature. Je ne vais pas vous l'apprendre, les genres, les styles, les siècles. Et la classification géographique, c'est une classification, elle existe. Parce qu'on part du principe qu'il y a une manière d'écrire et de raconter qui va être propre à certains territoires. Donc, si on allait au bout de cette logique, on ne parlerait pas d'une littérature d'Europe de l'Est, on parlerait d'une littérature européenne. Et il y a un historien, Franco Moretti, qui a étudié la question, qui a écrit une œuvre qui s'appelle « L'Atlas du roman européen », donc qui couvre le 19e et le 20e siècle, sur qu'est-ce que le roman européen. Est-ce que le roman européen existe déjà? Donc oui, il existe. Il y a une manière d'écrire en Europe qui peut être différente que des autres continents, une manière de mener des récits qui est différente, et puis une logique de diffusion, d'exportation, d'importation des romans sur un grand territoire sur lequel il y a plusieurs pays. L'Europe, c'est un continent un peu particulier là-dessus. C'est-à-dire que sur ce même continent, on a un nombre de pays extrêmement vaste, avec différentes langues parlées qui se rejoignent, qui s'éloignent. Et du coup, il y a eu quelque chose dans la diffusion politique du roman européen qui s'est mis en place. Et pendant longtemps, pendant des siècles, le roman européen, il a été dominé par la littérature anglaise, la littérature française et la littérature allemande. C'était vraiment ces trois pôles-là. Il y avait d'autres types de romans, hein. Il y avait du roman espagnol, il y avait du roman italien, mais le roman d'Europe de l'Est, il était un peu inexistant. Et c'était ces trois pôles-là qui dominaient. Avec trois types de récits, ou si on tourne ça un peu sur le registre de la blague, ce qu'ils disent, ce serait bah, dans la littérature française, on meurt pour l'amour. Dans la littérature anglaise, on meurt pour la liberté. Et dans la littérature allemande, on meurt pour l'honneur. Voilà, on retrouvait un peu ces trois pôles-là. Et puis, dans le courant du XXe siècle, il y a eu une entrée fracassante dans le roman européen, inattendue, qui est venue bouleverser beaucoup de choses, c'est la littérature russe. Alors je sais que ce soir, on ne s'ancre pas sur la Russie, mais la littérature de l'Europe de l'Est, elle est indissociable de la littérature russe, de la langue russe et du communisme, tout simplement, par le biais de l'URSS. Et il explique, Franco Moretti, que la littérature russe, elle a amené quelque chose de tout nouveau dans la littérature européenne. C'est une incarnation des idées. C'est-à-dire que dans la littérature russe, il ne s'agit pas de raconter une histoire, il ne s'agit pas de faire un récit, il s'agit de raconter des idées. Et ce n'est pas l'homme qui meurt pour des idées, c'est les idées qui semblent surgir d'elles-mêmes, s'incarner dans l'homme et mourir à travers l'homme. Je ne sais pas si vous saisissez voilà, cette différence qu'il y a, entre autres avec le communisme. Hein. C'est vraiment cette littérature pré-communiste, communiste et post-communiste qui a amené ça. Et du coup, dans ce trait d'humour de voilà, on meurt pour la liberté, pour l'honneur, pour l'amour, on dit que dans la littérature russe, on meurt. Enfin, bah, je meurs, voilà. Et cette littérature russe, elle est venue influencer, au fait, les narrativités culturelles en Europe de l'Est, dans la manière d'écrire des romans. Pas dans quelque chose de l'ordre du maître et de l'élève, du père et du fils. Il y a un essayiste russe qui s'appelle Shkolsky qui a expliqué ça. Il dit au fait c'est plutôt des trajectoires courbes. C'est-à-dire que la Russie a été influencée par des littératures qui existaient déjà sur les territoires d'Europe de l'Est et l'Europe de l'Est a été influencée par cette nouvelle littérature russe, mais dans quelque chose de l'ordre d'une courbe, un peu comme un oncle et un neveu, pas comme un père et un fils. Donc il n'y a pas de domination d'une littérature sur l'autre. Il y a une domination de la littérature russe de par la puissance qu'a eu la Russie à un moment, mais dans la manière dont les écrivains s'inspirent, il n'y a pas de rapport de domination. Du coup, maintenant qu'on a fait cette petite incursion sur la Russie, on va se recentrer sur l'Europe de l'Est. Et la question, je pense qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est l'Est ? C'est quoi l'Est ? L'Europe de l'Est, on peut le définir sur des critères géographiques, on peut le définir sur des critères culturels, religieux, linguistiques. Moi, quand je présente quelque chose sur l'Europe de l'Est, j'aime bien tourner la problématique dans le sens inverse et dire qu'au fait, l'Europe de l'Est, c'est ce qui n'est pas à l'ouest de l'Europe. Elle est là, la démarcation. Elle se joue dans ce sens-là. Il y a plusieurs essayistes qui ont travaillé sur cette question, dont Maria Todorova, qui est une sociologue anthropologue, qui a écrit un magnifique essai qui s'appelle « L'imaginaire des Balkans ». C'est-à-dire que l'Europe de l'Est, c'est notre alter, c'est notre miroir à nous, à l'ouest. On partage le même territoire et on a l'impression qu'il y a une espèce de démarcation fantasmée et symbolique qui nous fait nous dire qu'ils ne sont pas vraiment comme nous. Et cette démarcation symbolique, ils la ressentent aussi là-bas. Moi, j'ai beaucoup d'amis d'Europe de l'Est et quand ils me parlent, ils me disent toujours « Vous, les Européens de l'Ouest ». me dise pas, toi, la Française, si on a un débat politique ou culturel, vous, les Européens de l'Ouest. Ils nous mettent dans un gros bloc, un gros sac, et pour eux, on est tous les mêmes en Europe de l'Ouest, de la même manière que nous, on peut parfois avoir cette impression aussi qu'ils sont dans un gros sac, là, avec plein de neige, plein d'usines, plein de béton, et qu'ils sont tous les mêmes, ils vont tous à l'église. Enfin, et il y a vraiment, en fait, ces deux blocs d'Europe qui se regardent un peu en chien de faïence, et avec cette idée implicite que l'Europe de l'Ouest aurait quelque chose de plus civilisé, de plus démocratique, et que l'Europe de l'Est, Maria Todorova, c'est ce qu'elle explique dans son essai, ce serait quelque chose de l'ordre des larmes, des armes et du sang. C'est quelque chose du surgissement. Ils viennent toujours surgir pour amener la pagaille en Europe. C'est Churchill qui disait l'Europe de l'Est, et spécifiquement les Balkans, c'est la poudrière de l'Europe. Voilà, je pense que vous connaissez l'expression. Si on prend les guerres qu'il y a eu en Europe depuis plusieurs siècles, ça part quasiment tout le temps de là-bas, entre autres les deux guerres mondiales, qui sont vraiment jouées sur des enjeux d'indépendance des Balkans pour la Première Guerre mondiale et de l'envahissement de la Pologne pour la deuxième, où l'enjeu ne se résumait pas à la Pologne, mais c'est comme ça que quelque chose a commencé. Et en Europe de l'Est, il y a vraiment cette idée, si on prend un siècle d'Europe de l'Est, je pense que vous le savez et que vous l'avez vu aussi dans la littérature, il y a eu l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, la Première Guerre mondiale, qui s'est jouée majoritairement sur leur sol, même s'il s'est passé beaucoup de choses sur le nôtre aussi. Des tentatives, après la Première Guerre mondiale, de monarchie socialiste, quelque chose de très hybride, de très étrange. La Seconde Guerre mondiale, qui s'est extrêmement jouée sur leur sol également. La fin de la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée fracassante du communisme, avec l'URSS et la Yougoslavie de l'autre côté, qui, en étant communistes, étaient quand même en conflit entre eux. La chute du communisme, avec un délitement du côté de l'URSS et une guerre de la côté de la Yougoslavie. Et puis des tentatives de démocratie qui se sont soldées par des autocraties. Ce ne sont quasiment que des autocraties dans ces pays-là. Mais dont quelques-uns quand même arrivent à mettre en place une forme de démocratie et rentrent dans l'Union européenne. Mais pas d'autres qui veulent se rapprocher de la Russie. Et puis une arrivée fracassante du capitalisme qui là-bas a tout de suite été marquée par des inégalités. Et où il n'y a pas eu cette notion de progrès qu'on a pu avoir à l'Ouest. Ça, c'est en un siècle. Nous, en comparaison, en France, ça fait 60 ans qu'on est sous la 5e République. Donc, on peut avoir le sentiment dans notre propre pays que plein de choses bougent, mais on n'est pas sur le même niveau. Donc forcément, ça influence les narrativités culturelles. Si je reprends cet exemple de mes amis d'Europe de l'Est, il y a quelque chose qui est devenu un trait d'humour pour eux, parce qu'il y a beaucoup d'humour en Europe de l'Est. On ne croirait pas comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup. Ils ont beaucoup de mal à renouveler leur passeport. Ils sont nés dans des pays qui n'existent plus. Quand ils vont à la préfecture demander à renouveler un passeport, ils n'ont pas de lieu de naissance à donner. J'ai même un ami qui est né dans un pays qui n'existe pas. Il est né pendant la guerre de Yougoslavie, sur une toute petite zone entre la Serbie et la Croatie, qui s'est autodéclarée indépendante, qui s'est appelée la République de Kraljina. Ça a duré un an. Et au fait, sur son passeport, c'est écrit qu'il est né en République de Kraljina. La République de Kraljina n'a jamais été reconnue par personne. Et il se retrouve du coup à devoir choisir une zone de naissance. Donc sa zone de naissance, du coup, ce serait la Yougoslavie. Mais ça n'existe plus. Donc il faut qu'il choisisse entre la Croatie et la Serbie, avec tout ce que ça implique. Dans sa narrativité culturelle, personnelle, familiale, puisque la Croatie c'est du côté de l'Union Européenne, donc autant être croate, mais lui c'est un Serbe. Et les Serbes ils vont pas se déclarer croates comme ça du jour au lendemain, même 30 ans après. Donc il y a vraiment cette notion de comment se définir, comment se représenter, et du coup comment se raconter, entre autres par le biais de la littérature. On voit vraiment comment les narrativités culturelles se sont mises en place. C'est l'Europe de l'Est, ce serait comme à mes yeux, comme un cimetière des illusions. Il y a des illusions qui sont en permanence portées politiquement, culturellement, et qui s'effondrent. Et puis il y en a une autre qui surgit, et elle s'effondre. Et une autre qui surgit, et elle s'effondre. Et ça a amené, du coup, cette littérature particulière, et c'est Stefan Zweig, que vous connaissez peut-être comme auteur, qui disait « À l'ouest, les auteurs disent le monde, à l'est, on pense le monde. » Et je pense qu'on retrouve vraiment ça quand on lit ces romans d'Europe de l'Est. Quelque chose de différent dans la manière dont on amène un récit, puisqu'ils sont obligés de se penser en permanence. Pour moi, c'est la question du « qu'est-ce que ?» C'est-à-dire qu'en Europe de l'Est, on ne se dit pas « qui je suis », on dit « qu'est-ce que je suis ?» C'est pas la même manière de se présenter, encore une fois. Moi, j'avais une impression, j'ai eu une sensation qui m'est venue à l'esprit quand je vivais là-bas. Cette expression qui me venait tout le temps, c'est la frontière dans la peau. Les gens là-bas ont la frontière dans la peau en permanence. Des frontières visibles, des frontières invisibles, des frontières symboliques, des frontières politiques. Et c'est pas dans un sens d'identité multiple, de métissage. Ça l'a été à un moment. Là, c'est plutôt dans un sens d'identité fracassée. De toujours avoir une identité qui vient en dominer une autre, alors même qu'on essaie juste de tracer sa route au quotidien. Et je pense que les auteurs le retranscrivent très bien. J'ai lu un roman qui n'est pas dans le guide, mais c'est pas grave du tout, qui s'appelle « Le trou de la serrure » de Branko Radičević, qui est un auteur yougoslave, devenu serbe après coup, bien malgré lui. Maintenant, il a été défendu comme ça par la suite. Le trou de la serrure, c'est l'histoire d'une jeune femme, Ivana, qu'on suit de son enfance à l'âge adulte, à peu près à la quarantaine, et qui se passe... l'histoire se passe entre... Du coup, ça commence à la Première Guerre mondiale, après il y a la première Yougoslavie, parce qu'il y a eu deux Yougoslavies, et après il y a la Seconde Guerre mondiale. Et ça arrête à peu près au tout début de la Yougoslavie socialiste-communiste. Et c'est un roman très particulier. Ce sont des bribes de paragraphes qui s'entrechoquent en permanence. C'est-à-dire que Ivana pense toujours quelque chose et son contraire. Et qui, à mes yeux, représente au fait ce désarroi identitaire qu'elle a de ne pas savoir non pas qui elle est, mais qu'est-ce qu'elle est. Elle naît sous l'Empire austro-hongrois, elle se retrouve du coup à grandir dans une enfance où les femmes ont une certaine posture particulière, assez bourgeoise, avec des codes de la monarchie très placés. Il y a l'éclatement de la guerre, les Balkans reprennent position, elle se retrouve du coup à grandir dans une société très orthodoxe, très religieuse, une autre guerre arrive, et là elle arrive dans un monde communiste où il y aurait une soi-disant égalité des hommes et des femmes, puisque l'égalité se joue aussi dans les genres et dans les sexes, hein, tout du moins en Yougoslavie, et où la religion n'existe plus. Il y a une scène, par exemple, très intéressante dans ce livre, où il y a un vieux monsieur qui, un soir, est alcoolisé, et il se lève, il sort dans son jardin, il prend son fusil, il tire dans le ciel, et il dit « bah voilà, j'ai tué Dieu ». Et rentre chez lui. C'est vraiment cette image de pouf, ça fracasse, ça revient, ça fracasse, ça revient. Donc elle ne sait pas ce qu'elle est. Elle sait qui elle est, mais elle ne sait pas ce qu'elle est. En 30 ans de vie, elle a été traversée par des identités qui se tirent et qui ne peuvent pas s'entendre, qui ne peuvent amener à chaque fois qu'à la guerre et qu'à la mort. Et d'ailleurs, dans ce roman, à chaque fois, les hommes sont... Elle a des amants. Et les hommes sont errants, et elle dit, ils errent entre deux guerres. Voilà, l'Europe de l'Est, ils errent entre deux guerres. Donc c'est vraiment une littérature du qu'est-ce que je suis, de cette frontière dans la peau. Moi, quand je vivais à Belgrade, puisque je vous raconte aussi des histoires personnelles, j'avais une amie, une vieille femme, une femme d'un certain âge, on dirait plutôt comme ça, de 80 ans bien passés, avec qui... J'allais souvent boire des cafés parce qu'elle parlait français. On prenait un plaisir à être ensemble, l'une comme l'autre. Et qui m'avait raconté un jour sa vie, donc qui pourrait ressembler un peu à la vie d'Ivana. Elle était née à l'époque où la Yougoslavie était monarchique. Mais il y avait déjà des mouvements un peu socialistes, communistes dans cette Yougoslavie-là. Et son père l'avait appelée Stalina. en sentant que le vent allait tourner et en voulant marquer quelque chose politiquement en ne lui donnant un prénom ni orthodoxe ni noble. À la suite de la guerre, quand la Yougoslavie est devenue communiste, ce prénom lui a paradoxalement valu des soucis. Parce que, comme je disais, la Yougoslavie et l'URSS étaient en conflit. Donc, en l'ayant appelée Stalina, son père a amené une certaine défiance des institutions politiques sur sa famille. Donc, elle a dû se trouver un surnom. Elle s'est fait appeler autrement. Elle se faisait appeler Beba. Elle trouve sa place, malgré tout, dans cette Yougoslavie. Elle a un petit garçon. Et puis, elle se dit, je ne veux pas que mon fils revive ce que j'ai vécu. Donc, je vais lui donner un prénom assez neutre et elle décide de l'appeler Adam. Adam, c'est Adam, hein, le premier homme. Il se retrouve dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Elle se dit, voilà, Adam. Adam, en Yougoslavie, c'est considéré comme un prénom bosniaque. Donc, quand la guerre a éclaté, elle s'est retrouvée elle-même à avoir des difficultés par rapport au nom qu'elle avait donné à son fils. Son fils a été considéré à un moment comme un bosniaque. Du coup, il était en danger en Serbie, mais s'il allait en Bosnie, il aurait été en danger là-bas. La réponse a été, pour eux, une fuite vers l'Europe de l'Ouest qui a pu se mettre en place et ils sont revenus en Serbie après. Donc voilà tout ce qui se joue. Et elle arrive quand elle revient en Serbie, elle me dit, moi j'ai vécu dans un pays qui s'appelait la Yougoslavie, c'était mon pays. C'était pas une confédération, c'était mon pays. J'étais yougoslave, je parlais yougoslave. Et du jour au lendemain, j'apprends qu'au fait, je suis serbe et que je parle serbe. Et on me dit, maintenant, c'est ça ton identité, tu fais avec. Et elle me disait, j'ai autant de papiers d'identité qu'il y a de pages dans les livres d'histoire. Et elle m'avait montré, elle m'avait sorti tous ces papiers d'identité de la Yougoslavie monarchique, de ce qui s'était passé pendant la guerre, de la Yougoslavie communiste, du fait que maintenant elle était serbe, mais de sa petite carte de séjour en Europe de l'Ouest, de tout ça. Nous, on a une carte d'identité, puis elle nous suit toute notre vie. Et durant la Yougoslavie, on distinguait nationalité et citoyenneté. Donc, on pouvait avoir... La nationalité, c'était le pays où on vivait, et la citoyenneté, c'était l'ethnie qu'on avait. Donc on pouvait avoir sur la carte d'identité nationalité serbe, citoyenneté croate par exemple. Donc même dans ces papiers d'identité-là, c'était flou entre elle et son conjoint qui lui était croate. C'est enfin une folie identitaire, hein, une narrativité culturelle où pour tenir sa ligne là-dedans de vie, il faut s'accrocher à quelque chose. Et c'est pour ça que je dis ça rejoint vraiment la question du qu'est-ce que je suis dans cette littérature. Voilà, comme dans le roman avec Ivana, mais qu'est-ce que je suis ? Et souvent, la réponse dans ces pays-là, c'est le territoire. Je suis un territoire. Je suis là où je suis née. C'est ça que je suis. Parce que au final, ça a beau être traversé par un empire et un autre, par un empire et un autre, les arbres en bas de chez moi, c'est les miens. Et cette notion du territoire, on la retrouve énormément dans la littérature de l'Est. En même temps, les frontières, c'est fait pour être franchi, la frontière dans la peau, quoi, comme je vous disais. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a deux symboles du franchissement de la frontière et de ce territoire marqué et acté dans les littératures d'Europe de l'Est. C'est le pont et le train. Il y a quelque chose vraiment autour du pont, le pont sur la Drina, je vais vous en parler un peu, et du train. Et c'est deux manières de franchir les identités en Europe de l'Est, le pont et le train. Et j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai repéré ce symbole dans la littérature, c'est que j'ai réalisé que souvent, quand je me promenais là-bas, dans les petits villages, que ce soit en ex-Yougoslavie, en Roumanie, en Hongrie, j'ai beaucoup vadrouillé dans ce coin-là, les gens me montraient leur gare et leur pont. Quand j'arrivais dans un village, c'était la première chose que les gens me faisaient visiter. Avant même les églises ou avant même le café du coin que j'aimais bien visiter, il y avait le pont et le train. Et ces deux symboles, ils vont marquer deux choses différentes de la manière dont on traverse les identités à l'Est. Il y a l'Europe des ponts, il y a l'Europe des trains. Dans l'Europe des ponts, il y a quelque chose où la manière dont on franchit une identité, on le fait vraiment dans un mouvement physique. On passe par quelque chose, on se transporte nous-mêmes quelque part. Et le pont, il passe par-dessus l'eau. Il passe par-dessus un mouvement de vie. Alors que le train, il vient traverser un territoire. Il vient surgir dans un territoire et il nous transporte. Donc il y a vraiment dans cette image du pont la notion de se transporter soi-même dans son identité, de réussir à créer des identités multiples, alors que dans la notion du train, il y a ce franchissement où c'est l'histoire qui vous emporte. C'est pas la même manière de franchir les territoires. Dans le pont sur la Drina, j'ai vu qu'il était dans le guide, le pont sur la Drina, c'est un roman d'Ivo Andrić, auteur yougoslave, devenu serbe lui aussi par le jeu de l'histoire, qui raconte au fait l'histoire de la ville de Višegrad, qui est une petite ville que j'ai eu l'occasion de visiter, donc à la frontière serbo-bosniaque. Et au fait, il y a un pont qui s'est construit, qui a pris plusieurs siècles à être construit. Et qu'est-ce qui se joue autour de ce pont, avec ce village coupé en deux, d'un côté serbe, d'un côté bosniaque, et les mouvements qu'il y a entre ces deux villages. Et au fait, on voit par le pont des identités qui sont traversées d'un village à l'autre. Les dignitaires religieux d'un village et de l'autre se retrouvent généralement sur le pont pour discuter de certaines questions. Les histoires d'amour d'un village et d'un autre se jouent sur le pont. Sur le pont, il y a aussi des bagarres, sur le pont, il y a aussi des meurtres. Il y a quelque chose de l'ordre de ce qui fait la vie aussi, parfois dans ce cas-là, de violent. Mais on traverse le pont. Et puis, à un moment, dans le village, il y a une ligne de chemin de fer qui se met en place, qui passe pas par le pont, elle, qui traverse différemment, qui traverse par la montagne. Et il y a un vieux personnage, le personnage d'un dignitaire musulman, il me semble, du côté bosniaque, au fait, qui s'oppose à la mise en place de ce chemin de fer. Et il y a une scène très marquante dans le livre, parce que les jeunes prennent le train pour aller à la ville, et au fait, quand ils reviennent au village, ils amènent les idées de la ville, des idées nationalistes, des idées communistes, des idées anti-religieuses, et ils commencent à amener un certain bazar dans ce petit village qui arrivait à maintenir ce jeu des identités en passant par le pont. Et il y a une scène où il y a ce vieux personnage, au fait, qui court derrière le train où les jeunes sont montés et qui leur dit « Mais après quoi vous voulez aller aussi vite si ce n'est après la mort ?» Et il y a vraiment cette idée que le train amène à un franchissement des frontières trop rapide dans une Europe aussi multiple. Et ça, c'est une idée que Tolstoï avait défendu dans sa littérature, le train revient tout le temps, dans tous les romans de Tolstoï, le train revient, où il disait l'histoire de l'URSS, donc même pas que de la Russie, enfin de la Russie à cette époque-là, mais qu'on peut retrouver dans l'URSS après, s'est construite autour du symbole du train, ce symbole de progrès en est devenu l'inverse parce que le train a surgi de lui-même. Et le train a permis la révolution du prolétariat, le train a permis de franchir ces frontières-là. Il y a l'image du suicide dans Anna Karénine autour du train, il y a l'image des révolutions, il y a l'image des goulags. Hein. Le train, il emmène au goulag, c'est pas rien. Le train, c'est une incursion de ces fameuses idées qui vont venir faire exploser quelque chose dans l'Europe de l'Est. Et je trouve qu'on retrouve beaucoup ça dans les romans de Sándor Márai, qui est un auteur hongrois qui écrit beaucoup c'est très biographique, ou en tout cas c'est de la autobiographique, pardon, ou de la fiction biographique. Et il y a souvent quelque chose de l'ordre de la déambulation autour des ponts dans ces romans, dans ces biographies, entre autres du pont qui sépare Buda et Pest en Hongrie, puisque en fait Budapest c'est deux villes, hein, Buda et Pest, la ville noble et la ville un peu plus prolétaire, où entre autres vivaient tous les juifs, parce qu'il y a cette absence du peuple juif désormais en Europe de l'Est qui se fait ressentir aussi dans la littérature de quelque chose qui a disparu. Et autour de ces ponts, il y avait quelque chose de possible dans la communication entre ces différentes parties de Budapest. Et puis dans sa biographie Mémoire de Hongrie, qui parle de la particularité de la Seconde Guerre mondiale et un peu de ce qui s'est passé après, il a une vision de sidération, une nuit où il regarde par sa fenêtre, où au fait les communistes sont en train d'arriver dans la ville. Donc il y a une forme de plaisir à voir les communistes arriver parce que c'est les nazis qui sont là à l'heure actuelle. Et au fait, il voit par sa fenêtre qu'en une nuit, telle des fourmis, telle une armée de fourmis, ils construisent des rails. Et au fait, Budapest est traversée de rails. On en retrouve encore des petits bouts quand on va dans les campagnes de Budapest, pour faire venir le matériel militaire, entre autres par wagon. Et cette image, elle est je pense qu'elle a été impressionnante à vivre pour lui. Mais dans ce symbole littéraire et dans ce symbole de la narrativité culturelle, elle représente vraiment le surgissement du train. En une nuit, ils ont envahi Budapest de trains. Là où les ponts mettaient des siècles à être construits. Donc ce franchissement des deux Europes qui, sur le XXe siècle, en Europe de l'Est, a été d'une violence, d'une impulsivité qui, comme je vous dis, où on aurait l'impression qu'elle surgit d'elle-même. Et dans ce rapport au train, on retrouve beaucoup de trains dans la littérature d'Europe de l'Est. Il y a aussi cette notion des langues. C'est une zone avec un nombre de langues parlées, je crois que c'est 26, je crois qu'il y a 26 langues différentes parlées sur cette zone de l'Europe. Nous, à contrario, en Europe de l'Ouest, je crois qu'on est à 6 ou 7. Et il y a par exemple un roman de Kostoliani, qui est un auteur tchèque, très drôle, enfin moi j'adore Kostoliani, où il y a une petite nouvelle qui s'appelle Le contrôleur bulgare. En fait, Kostoliani, il est dans un wagon, il va en Bulgarie faire quelque chose. En tout cas, son personnage va faire quelque chose, mais Kostoliani, on ne sait jamais s'il parle de lui ou de ses personnages. Et puis, il y a un contrôleur bulgare, lui il est tchèque, qui le prend pour un bulgare lui-même, et en fait qui lui donne une lettre. Donc Kostoliani lit la lettre, se fait passer pour un bulgare au fait, lit la lettre parce que ça le fait rire, il trouve ça drôle, il a un petit peu bu dans son wagon, et puis rend la lettre, et au fait le contrôleur bulgare se met à lui parler. Et il comprend qu'il parle de cette lettre. Et il comprend qu'au fait il y a quelque chose de très intime dans cette lettre, et qu'il ne peut pas lui dire après coup, mais au fait je ne parle pas la même langue que toi, je n'ai pas compris cette lettre. Donc il essaye, en restant en permanence silencieux, d'adopter des codes, des mimiques émotionnelles qui donneraient l'impression qu'il comprend ce que le contrôleur lui dit. C'est drôle, c'est à mourir de rire, c'est vraiment à lire comme nouvelle. Et il y a toute une réflexion du coup justement sur cette notion de langue franchie aussi rapidement par le train, puisqu'il se dit lui-même dans son wagon en vivant cette scène, mais je suis arrivé trop vite en Bulgarie, j'ai pas eu le temps d'apprendre la langue. C'est drôle parce que dans tous les cas, on n'apprend pas la langue en traversant un pont. On va pas apprendre une langue en une semaine, hein, il faut des années de pratique. Mais cette idée que quand on voyageait par voie terrestre dans cette zone géographique un peu floue, un pays pouvait appartenir un peu à un autre pays, on pouvait s'imprégner de quelque chose dans l'ordre de la langue et essayer de jouer quelque chose d'une identité commune, et que là, avec le train, c'est plus possible. Au fait, on traverse. Mais on traverse en étant quand même soi-disant dans le même pays. En URSS, en Yougoslavie, enfin c'est... Voilà, moi je trouve ça assez passionnant, cette question de l'Europe des trains et de l'Europe des ponts. Et au fait, ça amène l'idée qu'il y aurait deux paysages qui se superposent, je dirais, en Europe de l'Est. Comme ils se superposent, ça amène ce tiraillement hein, dans les narrativités culturelles qu'on retrouve. Et je dirais, pour le dire de manière un peu grossière au fait, que ce serait l'Europe du communisme et l'Europe des confins. C'est-à-dire que les confins, c'est un mot, c'est une réalité hein, en Europe de l'Est, c'est un mot qui est vraiment utilisé. Enfin, nous on dit confins, ils le disent autrement. Mais le confin, en fait, c'est une réalité géographique, mais également symbolique, de zones territoriales entières qui n'ont pas bougé, qui sont comme figées dans le temps. Quand vous allez vous promener dans les campagnes d'Europe de l'Est, vous arrivez dans des endroits comme figés dans le temps. C'est pas que la modernité n'est pas arrivée, c'est autre chose. La modernité est arrivée, il y a des gares, il y a des bars tabac, il y a des cinémas. C'est quelque chose dans la manière de vivre, quelque chose dans la manière de se comporter, de tenir certains codes, parfois de s'habiller dans les traditions qui semblent figées dans le temps. Le symbole des confins de l'Europe de l'Est, c'est le gypsy. C'est vraiment le gypsy, le tzigane, qui est comme figé dans le temps lui aussi. Moi, quand je vivais à Belgrade, on est là, on est dans la capitale, belle capitale communiste, hein, ces grandes artères, ces voitures qui roulent extrêmement vite, hein, dans les Balkans, ça roule extrêmement vite, et tout à coup, on voit une petite carriole avec un âne et deux gypsies dessus, qui transportent de la ferraille derrière. quelque chose de figé dans le temps. Mais en même temps, totalement adapté. Hein. Ils vivent dans la modernité, hein. Ils font leur business, ils font leur... Voilà, c'est ça, cette Europe des confins. Quand j'étais en Roumanie, là, pendant mes vacances, je vous raconte une petite anecdote, parce que c'était... Moi, ça m'a fait mourir de rire. Et il y a des marchés de gypsies, au fait, où les gypsies viennent... Donc, ils récupèrent en allant vendre et revendre, en allant troquer. Au fait, ils récupèrent beaucoup d'objets de l'époque communiste. Il y a une certaine nostalgie du communisme, j'y reviendrai. Et du coup, ils le vendent sur des marchés. Donc, on appelle ça un marché de gypsies. En Roumanie, j'y étais là en septembre, donc en période de Covid. Le pass sanitaire n'est demandé nulle part. La Roumanie est le pays le moins vacciné d'Europe. Nulle part on vous demande votre passe ou on vous demande un masque. Et j'arrive à ce marché de gypsy. Et à l'entrée, il y a deux hommes, deux gypsy, qui font un contrôle, il faut avoir le pass sanitaire. Et si on n'a pas le pass sanitaire, on paye 2 euros. C'est pas qu'on rentre pas, c'est qu'on paye 2 euros. Ce qui est une belle somme là-bas. Hein. Ce serait l'équivalent de 15 euros ici. Et, du coup, personne n'a son pass. Et tout le monde paye 2 euros. Et je me disais, mais ah, moi j'avais mon pass, comme je suis française. Elle était dégoûtée. Mince, une européenne de l'Ouest, elle a son pass. Je pense qu'il m'aurait pris un peu plus que 2 euros. Et je me disais, mais quelle belle adaptation ils ont. Enfin, et ça, je dis, l'image du gypsy, c'est vraiment l'image de ce qui se joue entre cette Europe des confins et cette Europe du communisme et maintenant de la modernité capitaliste. Où ils sont restés comme figés dans le temps, mais ils s'adaptent 3 fois plus vite que nous. Cette entrée avec le pass sanitaire, j'ai trouvé ça merveilleux. Et du coup, voilà, on va retrouver ce jeu entre ces deux Europes aussi dans la littérature de l'Est, avec cette notion du qu'est-ce que je vous disais précédemment. Qu'est-ce que l'homo sovieticus, eux, ils l'appellent comme ça. L'homme soviétique, c'était quelque chose de particulier. C'était une tentative de créer une nouvelle manière d'être au monde. Qu'est-ce que le yougoslave ? Il y a vraiment cette question de qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que, à contrario, le gypsy, qui vit avec des codes ancrés qui n'ont pas bougé depuis des siècles ? Et comment ces différentes Europes arrivent à se rencontrer ? L'Europe des confins, par exemple, je trouve qu'elle est extrêmement bien décrite par Ismaël Kadare, qui est un auteur albanais, entre autres dans ce roman Avril brisé, qui est un roman magnifique. Hein. Avril brisé, c'est peut-être pour ceux qui ne l'auraient pas lu. En fait, en Albanie, il y a une loi qui s'appelle la loi du Kanoun. Kanoun voulant dire loi, donc c'est un joli, je ne sais pas comment dire ça, pléonasme, la loi de la loi. Le Kanoun, c'est un code très particulier autour de l'économie du sang. C'est-à-dire que si on tue quelqu'un, dans un conflit, quel qu'il soit, sa famille, on doit lui offrir un sang. Donc il y a un membre de la famille de l'autre qui a le droit de tuer quelqu'un de notre famille. Voilà. Et dans cette économie du sang, il y a des demi-sangs. Si je paye une somme, tu peux ne pas me tuer, mais tu peux me prendre une partie de mon territoire, où tu peux me blesser. Et puis parfois, il y a même, à l'inverse, des doubles sangs. Selon qui on a tué dans la famille de l'autre, l'autre a le droit de tuer 2 membres de notre famille, ou de tuer une femme. Parce que tuer une femme, c'est pas la même symbolique, parce que les femmes portent les enfants. Et oui ?
Encore actuellement ?
Oui.
D'accord.
Encore actuellement. Exactement. Encore actuellement. La loi du Kanoun, elle existe sur plusieurs territoires. Elle existe aussi au Monténégro, en Macédoine, mais en Albanie, elle est vraiment marquée. Alors, le gouvernement... a essayé de réguler cette loi du Kanoun, mais n'y arrive pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle existe, elle n'existe plus officiellement, mais elle existe dans les codes. Moi qui travaille avec des réfugiés en tant que psychologue, j'ai des patients albanais qui sont venus en France pour fuir la loi du Kanoun, parce que c'est un système sans fin. Parce qu'en fait, vous tuez quelqu'un. Pas vous, mais imaginons, dans un drame, dans un duel, vous allez tuer quelqu'un d'une famille. Cette famille, vous lui devez un sang, elle va tuer quelqu'un de votre famille. Ben, quand elle a tué quelqu'un de votre famille lui doit un sang et a le droit d'aller tuer.
Ça n'annule pas, du coup ?
Non, ça n'annule pas.
Ah, donc
c'est sans fin.
Et ce qu'il y a après, c'est le sursis. Le sursis dans lequel vivent les gens,
c'est ça
qui s'explique.
Et c'est le sursis, au fait, il y a une temporalité.
Ouais.
Pendant la loi du Kanoun, au fait, il y a une temporalité dans laquelle on a le droit de mettre en place ce sang. C'est-à-dire qu'il va se jouer selon les zones à différents endroits, donc 1 mois, 6 mois, 1 an. Vous ne pouvez pas venir tuer quelqu'un 10 ans après. C'est une temporalité précise pendant laquelle vous, vous avez le droit de tuer cette personne.
C'est combien de temps environ, vous savez, hein?
Alors là, je sais, il me semble, en tout cas dans le roman Avril Brisé, il me semble que ça se joue sur à peu près un mois. Et je sais qu'il y a des zones comme le Monténégro et la Macédoine où ça peut se jouer sur plusieurs années. Mais vous pouvez annuler ça en payant une somme. En payant une somme à un dignitaire religieux qui s'occupe de la loi du canon. Mais cette somme, elle est... Mais cette somme, elle est tellement indécente que pour l'avoir, généralement, vous allez devoir aller tuer quelqu'un pour récupérer quelque chose de ses richesses. C'est un système sans fin. Et qui correspond à cette idée, comme je vous disais, des confins de l'Europe, de quelque chose qui reste figé dans le temps. C'est-à-dire que vous allez en Albanie ou en Macédoine ou au Monténégro, où certaines communautés hein, maintiennent la loi du canon, hein, pas toutes les communautés, évidemment. Vous allez dans un pays d'Europe, normal. Enfin, comme... Voilà. Il y a cette notion de vous promener dans la rue, vous faites votre vie. Il y a, voilà, les gens sont scolarisés, les gens travaillent, les gens ont une voiture, les gens ont un compte en banque. Mais il y a quelque chose qui reste comme figé. Et à contrario, il y a cette Europe du communisme qui, elle, est arrivée, comme je vous disais, hein, avec, qui n'est plus là, le communisme, mais où il y a cette idée de quelque chose que ça a amené, d'une... d'une ultra-modernité bouillonnante. Et comment est-ce qu'on fait se confronter ces deux mondes? Quand vous vous promenez dans les capitales d'Europe de l'Est, c'est des bâtiments, là, des espèces de bâtisses. La poste de Belgrade, qui était la poste de Yougoslavie à l'époque, donc à l'époque où il n'y avait pas le téléphone, donc les gens envoyaient beaucoup de courriers, mais la poste de Belgrade, c'est un bâtiment qui fait une rue entière, sur 30 étages. C'est un énorme bloc de béton. Et bam, on arrive devant ça, c'est posé. C'est pour ça que je vous dis, il y a cette notion-là d'une espèce d'ultra-modernité dans les villes qui est très particulière, avec à contrario ces paysages ruraux qui sont restés un peu dans l'Europe des confins. Et comment ces deux mondes arrivent à communiquer. Donc dans Avril Brisé, on suit ce jeune homme qui se retrouve à avoir une loi du sang contre lui et qui essaye désespérément d'aller payer au fait son sang à un dignitaire religieux pour survivre. Et on suit au fait dans le même temps un jeune couple qui vient de la capitale, de Tirana, et qui, donc l'homme est un intellectuel, la femme est une jeune femme de la ville assez moderne, et au fait ils se retrouvent dans la même auberge à un moment que ce jeune homme, et ça crée tout un mouvement où la fille développe des sentiments pour lui en un regard, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la vie dans son regard, mais au fait, ce qui est de l'ordre de la vie, c'est de l'ordre de la mort. Enfin, c'est cette subtilité. Et on voit comment ces deux mondes se confrontent, ces deux intellectuels de la ville qui se retrouvent fascinés par ses confins, et ce jeune des confins qui essaye d'accéder à quelque chose de la ville. Et moi, quand je lisais ce roman, j'avais une sensation d'ombre chinoise. J'avais l'impression que les personnages étaient des ombres chinoises en train d'essayer désespérément de trouver à quel endroit elles allaient arrêter de se projeter comme ça de manière aussi grandiloquente pour juste s'installer dans une narrativité. Ça, j'ai cette question du qu'est-ce que je suis. Je suis une ombre chinoise. Ils aspirent juste à être qui je suis. Je suis une jeune femme mariée, je suis un jeune homme du village, mais ils sont pris par quelque chose de plus grand qu'eux. Il y a un auteur qui est dans le guide aussi, Dragoman quelque chose. Oh, Gheorghi.
Ouais.
Le roi blanc, le bûcher.
Dragomir.
Voilà. Gheorghi Dragomir. J'avais oublié son nom, merci. Qui je trouve, représente vraiment bien cette idée des deux Europes aussi dans ses romans. Entre autres, le roi blanc et le bûcher, où au fait, c'est toujours des romans où on suit des jeunes. Lui, c'est sa ligne. On suit des. Donc, dans le roi blanc, on suit un petit garçon de 12-13 ans. La police communiste, au fait, vient un jour chercher son père et l'emmener, et il sait pas où, et il cherche désespérément à savoir où est son père. Et puis, et en même temps, il vit ses petites histoires d'enfant, hein, au foot, essayer de voler de la nourriture, parce que c'est... Et c'est très particulier, parce qu'au fait, c'est un auteur hongrois, mais il écrit sur la Roumanie, parce qu'il y a toujours cette notion des frontières. Donc, ses personnages sont des Hongrois en Roumanie, ou des Roumains en Hongrie. Enfin, on voit vraiment ces deux Europes. Et dans... Le bûcher, ça se passe à la fin du communisme. On suit une jeune fille qui a perdu ses parents durant le communisme. On la suit à peu près de ses 12 à ses 14 ans. Et au fait, elle est récupérée à l'orphelinat par sa grand-mère. Et sa grand-mère est un peu sorcière. Et il y a quelque chose de comment la ville, au fait, essaye de se restabiliser à la chute du communisme. Comment cette jeune fille essaye de construire son identité de jeune fille. Et qu'est-ce que la sorcellerie vient faire là-dedans? Est-ce que c'est de la sorcellerie de la Kabbale associée au Yiddish? Parce qu'il y avait, tout ce peuple juif à ce moment-là. Est-ce que c'est de la sorcellerie des gypsies? Ou est-ce que la sorcellerie, c'est un symbole de toute cette horreur de ce qui s'est passé durant le communisme dans certaines zones et où pour pouvoir s'en sortir, il fallait un peu sortir du droit chemin. Et c'est très symbolique, il a une littérature très symbolique. C'est vraiment un auteur que je recommande et où on... Georgi, quelqu'un l'a dit mieux que moi. Georgi Dragomir. C'est écrit dans le guide. Et voilà, autour de cette question-là, de cette question de la narrativité culturelle, du qu'est-ce que je suis, spécifique au roman d'Europe de l'Est, il est excellent. Il y a un autre roman qui est pas mal aussi, c'est totalement différent, mais de Vuk Drašković, qui est un auteur serbe, qui s'appelle Le Couteau. Et au fait, c'est l'histoire d'un roman qui retrace toute une généalogie familiale en Yougoslavie à travers un couteau qui est utilisé dans des conflits pendant la Seconde Guerre mondiale entre les Tchétniks et les Oustachis, qui étaient deux corps de... Les Tchétniks se battaient pour la monarchie serbe, les Oustachis représentaient plutôt un mouvement nazifiant de la Croatie. Du coup, il y a un couteau qui est utilisé pour tuer l'un et l'autre. Le couteau se retrouve dans la main de quelqu'un d'autre en Bosnie et utilisé à une autre guerre. Le couteau se retrouve un moment dans quelque chose de l'ordre de la loi du canon. Enfin, et au fait, c'est un couteau qui traverse toute une famille comme ça. Et on voit comment les identités sont traversées parce que les membres de cette famille bougent géographiquement tout le temps et du coup ne savent plus qui ils sont. Un coup ils sont du côté des Bosniaques, un coup ils sont du côté des Serbes, un coup ils sont religieux, un coup ils le sont pas. Et on retrouve du coup cette notion de, à un moment, qu'est-ce que je suis? C'est mon territoire. Parce que le jeune homme, le protagoniste, lui il cherche juste à s'ancrer dans un territoire. Au fait, il cherche à avoir un arbre en bas de chez lui et à dire ça c'est mon arbre. Parce que quand on bouge d'une zone à l'autre, c'est pas comme quand on bouge d'une ville à l'autre pour nous en France. C'est on bouge d'une identité culturelle et politique à l'autre parfois en 2 heures de route quoi. Et c'est Kundera, Milan Kundera, qui auteur tchèque, qui expliquait qu'en Europe de l'Est, je crois que c'est dans l'insoutenable légèreté de l'être qu'il explique cette théorie. Alors il parle du communisme, mais pas que. Il parle aussi de cette identité de l'Europe de l'Est et il dit. En fait, c'est comme une grosse boule qui nous échappe. Donc, encore une fois, on a cette idée du surgissement, hein, où l'idée surgit. C'est pas l'homme qui amène l'idée, c'est l'idée qui surgit. Et il dit, voilà, c'est l'Europe de l'Est, au fait, c'est des idées qui sont comme une espèce de grosse boule, là, qu'on trouve jolie, petite boule au début d'enfant, comme une bille, avec laquelle on joue. Et puis, en fait, elle grossit, et elle nous échappe, et elle roule, et elle dévore tout sur son passage. Et on lui court après et on dit non, c'était pas ça qu'on voulait. C'était pas censé être ça le communisme, c'était pas censé être ça le nationalisme, c'était pas censé être ça de vouloir notre indépendance au milieu de la grande Europe. Il dit voilà, et au fait on passe notre temps à courir après cette boule. Et à chaque fois qu'on croit la stopper, pouf, il y en a une autre qui surgit. Et ça amène du coup ces identités en permanence morcelées, comme je vous disais, qui du coup amène un mouvement très particulier où il y a un fantasme en Europe de l'Est, encore maintenant, hein, un fantasme d'une unité antérieure qui aurait existé et qui n'existe plus. C'est-à-dire que maintenant que le communisme est fini depuis un certain temps, il y a par exemple en ex-Yougoslavie une Yougostalgia. Les gens veulent revenir à la Yougoslavie. C'était mieux la Yougoslavie, c'était différent. Il y a l'ostalgia, hein, en Allemagne de l'Est, qui est un mouvement très connu aussi. Alors là, il n'y a pas une URSS nostalgia à l'heure actuelle, on n'en est pas encore là. Mais on voit qu'il y a certains pays d'Europe de l'Est qui sont en train de tendre à ça, de vouloir se raccrocher à quelque chose. Donc sous l'URSS, ou sous la Yougoslavie, il y avait une nostalgie de quelque chose de l'ordre de la monarchie. Sous l'ordre de la monarchie, il y avait eu une nostalgie de l'Empire ottoman. Au fait, il y a toujours une nostalgie d'une forme d'unité antérieure, puisqu'ils n'ont jamais le temps d'asseoir une identité. Et c'est Sándor Márai, encore une fois, dans Mémoire de Hongrie, qui dit à un moment, il a un dialogue avec un colonel, un commandant communiste dans sa cuisine. Et le commandant communiste lui dit « Vous êtes un bourgeois ». Et Sándor Márai dit « Non, je ne suis pas un bourgeois, je n'exploite personne, je vis de mon propre travail, je suis un écrivain. » Et le commandant communiste lui répond « La bourgeoisie, c'est croire en un monde qui n'existe plus. Et c'est ça, cette idée de ce fantasme d'unité antérieure. Il y a toujours ce sentiment de croire en un monde qui n'existe plus. Et ce désir de rompre avec la bourgeoisie, il se posait comme ça à la base, dans l'idée intellectuelle communiste, qu'elle soit yougoslave ou russe. Et ça a amené l'effet inverse, de croire désespérément en un monde qui n'existe plus. Il y a un mot pour ça en russe, c'est la Tosca. Tosca, c'est un mot féminin que moi je trouve magnifique. Tosca, c'est la nostalgie de ce qu'on n'a pas connu. Ce sentiment d'être nostalgique de quelque chose qu'on n'a pas connu.
La Tosca ?
Tosca, oui.
C'est un opéra très connu.
Oui. Ce qui ne s'écrit pas de la même manière. T-O-S-K. Oui, c'est avec un K. Et il y a la Tosca, en Europe de l'Est, on la ressent tout le temps. Les gens sont nostalgiques de quelque chose qu'ils n'ont pas connu. Moi, j'ai passé une soirée, par exemple, un moment avec des amis roumains qui mettaient des vidéoclips de musique, je sais pas comment vous dire, au fait, sous le communisme, c'était de la musique d'État, au fait, tout était c'était de la culture d'État. Donc, et ils me mettaient ça, ils disaient, oh là là, mais avant, c'était de la vraie musique. je peux comprendre qu'on soit nostalgique de la musique d'une certaine époque, et ça peut être une forme de vraie musique, mais que veut dire vraie musique quand c'était de la musique d'État? Enfin, et c'est des jeunes, hein, de 25 ans, et du coup, ils sont nostalgiques d'un communisme qu'ils n'ont pas connu. Et à l'inverse, les personnes plus âgées que j'avais pu rencontrer me disaient, oui, à l'époque où on était un royaume et où tout le monde allait à l'église, c'était... Et ils n'ont pas connu ça. Enfin, il y a toujours... Alors, il y a cette blague de toujours dire, oh, c'était mieux avant. On passe toujours notre temps à dire, c'était mieux avant. Mais là, c'est plus profond que ça. C'est la nostalgie de ce qu'on n'a pas connu. C'est vraiment, c'est la Tosca. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort pour symboliser cette Tosca en Europe de l'Est. C'est que les cimetières sont des lieux de vie investis. Les gens vont au cimetière. On va faire une balade au cimetière. On va prendre un café au cimetière. On va jouer aux échecs au cimetière. Et on prend des photos aux enterrements. On prend des photos aux enterrements. Et ça va plus loin que ça. On prend des... J'ai découvert ça un jour. On prend des photos des tombes tous les ans, comme un membre de la famille. Si on fait une photo de famille et qu'un membre de la famille est décédé, on va sur sa tombe, prendre la photo de sa tombe. Je sais pas comment je changerais d'année. Comme si... Et cette photo est dans l'album de photos. Bah, c'est Saint-Noël 97. Et puis, il y a la tombe de Vouk. Enfin, c'est très particulier. Pour eux, c'est totalement normal. Eux, ils comprennent pas du tout notre rapport au cimetière. Alors, vous laissez vos morts sous des grilles fermées. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas d'horaire pour visiter mes morts. Je les visite quand je veux, au fait. De la même manière qu'ils se visitent les uns les autres comme ils veulent. Hein. Rentrent dans les appartements. Enfin, quand j'étais à Belgrade, un jour, j'ai une voisine qui sonne. Elle voulait de la farine ou quelque chose. Et elle est rentrée chez moi, en fait. Elle s'est assise, elle s'est servie son café. Nous, on n'a pas du tout ces codes-là. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai compris que ça se faisait comme ça là-bas. Je servi son café, mais du coup, voilà. Enfin, là, c'est une petite aparté, mais il y a ce rapport au cimetière aussi. On rentre, on n'a pas des horaires pour visiter nos morts. Et en fait, les morts, ils font partie du quotidien. Ils font partie de la vie. On parle d'eux, on va les visiter, on les prend en photo. Les enterrements ne se vivent pas du tout de la même manière que chez nous. Alors, c'est pas non plus des temps de fête comme ça peut l'être en Irlande, mais c'est des temps de vie. Voilà, les enterrements, c'est des temps de vie. Il y a tout le monde qui vient, toute la famille élargie, ils sont 200 là-dedans, ça dure 3 jours. C'est vraiment quelque chose de la même manière qu'on dit « Oh, faut vivre un mariage dans telle culture
!» Est-ce que ça peut expliquer que le côté gothique et vampirique et tout ça, c'est né un peu là-bas, en fait?
Oui, ça peut. Enfin, je ne sais pas si ça peut expliquer, il faudrait que je creuse la question, mais en tout cas, c'est lié.
C'est un côté, oui.
Il y a quelque chose de très lié dans ce rapport
à la mort.
Ouais. À la mort et du coup à cette vie qu'il y aurait après la mort, puisqu'on continue à maintenir autour de nous ceux qui ne sont plus. Et en même temps, pour moi, dans cette notion de la mort, il y a quelque chose de cette manière dont ils vivent la mort, de quelque chose de l'ordre de la Tosca, parce que voilà, c'est la nostalgie de quelqu'un qu'on a connu, évidemment, quand on a perdu quelqu'un. Mais eux, ils ont la nostalgie de mort qu'ils n'ont pas connue. Ils peuvent aller au cimetière fleurir la tombe de quelqu'un qu'ils n'ont pas connu parce que sous le communisme, au village, il était telle personne. Oh, et puis ce cimetière orthodoxe, alors que nous, on est un pays catholique, il est tellement mignon, je vais aller le fleurir. Donc, on retrouve aussi dans ce rapport à la mort quelque chose de cette nostalgie. Et c'est vraiment... enfin, c'est très particulier. Il y a une nouvelle serbe d'un auteur qui s'appelle Danilo Kish, qui se passe dans un cimetière, et que moi je trouve magnifique, parce qu'on voit encore une fois cette Europe des confins et cette Europe très moderne. Alors ils sont au cimetière, c'est des marins, ils sont alcoolisés, ils font la fête. Pourquoi ils font la fête au cimetière? On ne sait pas, parce que c'est un lieu de vie. Et puis au fait, ils ont tous eu une aventure avec une prostituée qui est décédée peu de temps avant et qui est enterrée dans ce cimetière-là, dans le quartier des pauvres du cimetière. Et ils décident, dans un mouvement que moi je trouve très communiste dans cette nouvelle, d'aller voler les fleurs des tombes des riches pour aller fleurir la tombe de cette femme, de cette prostituée qui est presque... Elle n'est pas dans une fosse commune, mais c'est presque... Enfin, il y a une petite croix en bois et basta. Et du coup, ils volent toutes les fleurs, puis ils sont embarqués dans leur élan, ils vont voler des fleurs dans la ville et ils mettent tout ça sur la tombe. Et c'est une très belle nouvelle. Et il y a quelque chose pour moi où je me dis... Bah, ça pourrait pas être écrit en Europe de l'Ouest. On a une très belle littérature, hein, j'adore notre littérature, mais il y a quelque chose de comment le cimetière est vécu et quelque chose de ce symbolisme communiste d'aller voler des fleurs aux riches pour les mettre sur la tombe des pauvres.
Ça serait hyper mal vu
aussi. Oui, effectivement, oui, ce serait considéré comme une nouvelle provocante.
Une provocation,
totalement, oui. Je pense que ce serait pas du tout vu, alors que là-bas, c'est une nouvelle très joyeuse.
C'est beau, c'est poétique, finalement.
C'est très poétique, oui. Et c'est un auteur très, très connu. Et cette nouvelle est très connue en Serbie et plaît aux gens qui en jouent, hein, qui en jouent dans les milieux littéraires, qui peuvent dire « on va faire ça, nous aussi ». Donc voilà, dans cette notion dont je vous parlais de la Tosca. Et du coup, donc ça rejoint cette idée, comme on disait, donc quand tout se disperse dans ses identités, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste aussi quand le sol sur lequel on a vécu, puisque je vous disais, il y a quelque chose de l'ordre de se raccrocher au sol. Moi, je ne veux que mon arbre en bas de chez moi. Qu'au fait, ce sol est lui-même marqué d'un certain sang par toutes ces guerres qui ont traversé l'Europe de l'Est. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'œuvre L'homme qui savait la langue des serpents d'Andrew Skivirak, qui est un roman que j'adore aussi. Alors là, ça se passe lui dans un temps très flou, un peu au début du christianisme, mais on sent que c'est une critique de l'époque contemporaine où, au fait, il y a la communauté de la forêt, donc la communauté des confins, hein, qui a certains codes de sorcellerie, qui se retrouve confrontée à la communauté de la ville avec l'évangélisation. On comprend que l'évangélisation peut être un symbole du communisme, et de l'évangélisation d'ailleurs dans l'absolu, tout simplement. Et qu'au fait, ces deux mondes se confrontent et ces deux mondes sont persuadés de leur bon droit, et ça ne peut que finir dans un bain de sang. Donc, et puis il y a un personnage au milieu qui est très attachant et qui lui comprend en fait qu'ils sont tous qu'ils sont tous torts, qu'ils sont tous à leur manière totalement stupides et aveuglés par ces illusions, cet idéal de l'illusion, et que ça ne va finir qu'en cimetière des illusions, et essaye désespérément de tout simplement sauver sa peau à lui. Et à la base, il essaye de sauver sa peau à lui en préservant son sol. Cette idée, comme je vous disais, de préserver le sol. S'il ne me reste que mon territoire, au moins il me restera ça. Et puis à un moment, ce sol est tellement imbibé de sang qu'il comprend que pour préserver quelque chose de sa survie et de son identité, ce qu'il faut qu'il préserve, c'est sa langue. C'est la seule chose qui lui reste. La langue des serpents. Puisque dans ce roman, lui, il arrive à communiquer avec les serpents. Et je pense que, voilà, que ce serait peut-être, pour arriver sur la fin de cette intervention, cette spécificité aussi de l'Europe de l'Est dans sa narrativité culturelle et du coup de sa littérature, c'est la question de la langue. C'est une zone, comme je vous disais, il y a peut-être à peu près 26 langues qui sont parlées, et dans ces identités culturelles multiples, métisses, parfois créatrices de fractures, parfois créatrices de mouvements de vie, la manière dont les personnes arrivent encore à se définir, l'ont réussi dans cette littérature un peu passée et le font encore maintenant, c'est par la langue. C'est quoi ma langue? Mais qu'est-ce que je parle? Quand on me dit « tu appartiens, tu es austro-hongrois », non, tu n'es plus austro-hongrois, tu es autrichien, tu es hongrois, non, en fait, tu es de l'URSS, encore maintenant, on le retrouve dans l'éclatement de la Yougoslavie ou dans toutes ces zones frontalières où les personnes parlent plusieurs langues, hein. Je dis parfois de manière très créatrice, hein, il y a beaucoup, beaucoup de bilinguisme en Europe de l'Est. Bah, au final, si je veux savoir qui je suis, bah, quelle langue je parle ? C'est quoi ma langue ? Et dans quelle langue, du coup, j'écris ? Moi, je trouve impressionnant dans cette littérature, dans les prix Nobel de littérature, il y a 13 prix Nobel qui viennent d'Europe de l'Est. En fait, moi, je trouve ça énorme dans le sens où c'est des langues que personne parle à part eux. C'est beaucoup plus facile de devenir prix Nobel de littérature quand on est francophone, quand on est anglophone, quand on est hispanophone. Et là, c'est des tout petits pays avec des toutes petites langues que personne d'autre parle et qui arrivent à surgir comme ça dans la littérature. Et peut-être justement parce qu'ils défendent leur langue en écrivant. Il y a Otto Pavel, qui est un auteur... tchèque, les tchèques ont un rapport très fort à leur langue. Alors lui, il n'est pas prix Nobel de littérature, et c'est très particulier parce qu'il a été publié après sa mort. C'est quelqu'un qui a vécu un certain drame pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été interné en asile psychiatrique par la suite. Et au fait, c'est en asile psychiatrique qu'il a été suivi par un psychiatre qui lui a donné un carnet. Et il a écrit du coup toute sa vie dans ce carnet. Il s'en est sorti un livre qui s'appelle « Comment j'ai rencontré les poissons ». Parce qu'il a grandi au bord d'un lac où il allait toujours pêcher des carpes avec son père quand il était petit. Et au fait, toutes les nouvelles, tous les récits de ce recueil tournent autour de ce lac avec des anecdotes très drôles où à un moment, quand les nazis sont arrivés, ils ont voulu prendre possession de ce lac. Et du coup, son père a réussi la nuit à faire une petite embouchure pour que toutes les carpes se sauve, ce qui fait que quand les nazis sont allés pêcher, il n'y avait plus de poissons, il n'y avait plus de carpes, enfin, c'est résistance passive de la vie au fait. Et du coup, lui-même, Otto Pavel, il est traversé par plusieurs langues, il est issu d'un couple métis, je vous dirai plus quoi parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais ça parle plusieurs langues chez lui, il bouge beaucoup parce que son père, il est VRP, il vend des aspirateurs ou que sais-je. Et il pense au fait que ce qui lui reste, c'est ce territoire, c'est comment j'ai rencontré les poissons. Mais cette petite mare à laquelle il est très attaché a été elle-même traversée par plein de mouvements de l'histoire. Et puis, à la fin, elle est toute polluée, il n'y a plus de poissons dedans. Et puis, au fait, il réalise que ce qui lui reste, c'est sa langue. Dans un territoire qui n'existe plus, qui n'existe pas, ce qu'il nous reste, c'est notre langue. Et c'était Sandor Marais hein, qui disait « La patrie de l'écrivain, c'est sa langue. Ma patrie, c'est ma langue. » Et c'est pour ça qu'il a maintenu jusqu'au bout de sa vie d'écrire en hongrois, alors même qu'il était polyglotte. Et Teco Stoliani, où je vous disais tout à l'heure avec le contrôleur bulgare, qui est un auteur extrêmement drôle, j'adore Costoliani, et qui avait dit un jour dans sa correspondance, j'avais lu ça, je ne sais plus à qui il écrivait, un autre écrivain lui disait « Montre-leur que le hongrois est drôle ». Mais comme personne ne le parle, je ne sais pas à qui on va le montrer. c'est des petites pépites comme ça. Et il y a Kundera, donc cet auteur très connu. Kundera est un auteur tchèque, et je ne sais pas si vous savez que Kundera se traduit lui-même, au fait, en français et dans d'autres langues. Et j'avais écouté une interview de Kundera, qui était succulente, j'adore Kundera, et il expliquait... qu'en fait, un jour, il était à une conférence comme ça, et puis il y a quelqu'un qui lui dit « Oui, pourquoi est-ce que vos romans sont aussi en poulet ?» Il ne comprenait pas la question, il disait « Mais comment ça en poulet ?»« Oui, pourquoi vous dites et ce bleu limpide et transparent qui coule du ciel ?» Enfin, quelque chose comme ça. Et Kundera, il dit « Mais j'écris pas du tout comme ça. J'ai jamais écrit quelque chose comme ça. » Et au fait, il est allé lire les traductions qui avaient été faites de lui, et s'est rendu compte que la manière dont c'était traduit, c'était pas du tout sa langue. Et en fait, il disait que c'était pas du tchèque, mais ça ne peut pas être du tchèque parce qu'il n'y a qu'un tchèque qui peut traduire le tchèque. Et il a décidé de se traduire lui-même pour pouvoir jouer entre les sonorités de la langue française et les sonorités de la langue tchèque. Et si vous prenez un roman de Kundera traduit par lui et le même roman traduit par quelqu'un d'autre, ben, il y en a un des deux, vous allez avoir des fous rires, et l'autre, vous allez trouver ça en poulet. Et voilà, c'est possible pour certains de se traduire eux-mêmes, pas pour tous. Mais vraiment, cette question de la langue, c'est un objet vivant dans toutes les cultures du monde, hein, mais c'est un objet de résistance identitaire d'une certaine manière en Europe de l'Est. Et pas identitaire dans le mauvais sens du terme. Identitaire dans le sens de ce qui nous reste, ce à quoi on se raccroche et ce avec quoi on peut créer. Parce que la langue, c'est un objet créateur, créatif. Et moi, je trouve très... très intéressant, justement, sur cette zone-là, qu'il y ait tant de gypsies qui ont une langue qui n'a pas bougé depuis des siècles et qui n'a pas de système écrit. Je trouve extrêmement symbolique ce rapport à la langue qui se joue sur cette zone polyglotte et sur cette population qui vient traverser cette zone avec cette langue qui n'a pas de système écrit. Je ressens vraiment une forte symbolique autour de ça. Et du coup, pour conclure cette intervention, je pourrais continuer des heures, mais il va falloir conclure à un moment. L'objet de cette intervention, c'était l'Europe de la littérature d'Europe de l'Est est-elle un concept géographique ou littéraire ? Il y a un mot en slave, c'est ili, tout petit mot, hein, I-L-I, ili. C'est un mot qui veut dire « et « ou ». C'est un mot qui veut dire les deux choses en même temps. C'est pas « un coup ça veut dire « et », un coup ça veut dire « ou ». Ça veut dire les deux choses en même temps. C'est l'idée de ce qui est et ce qui n'est pas en même temps. Et je pense que la littérature d'Europe de l'Est est un concept littéraire, ili, géographique. Voilà. Merci.